Vous écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actus livres de Délivrez-moi avec le Vent des Lires, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
La lecture est indispensable.
Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Élise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h.
Je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez.
Bonjour à tous et bienvenue sur Web Radio, bienvenue dans Délivrez-moi. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Alexandre. Salut Alexandre, ça va ?
Salut, ça va
et
toi ?
Et Élise est en vacances, elle a bien de la chance, elle le mérite bien. Si elle jamais elle nous écoute, on lui fait des énormes bisous. J'espère qu'elle est en train de faire le stock de lecture pour les prochaines émissions et je suis sûr, la connaissant, que c'est le cas. Aujourd'hui, pas d'agenda puisqu'on n'aura pas Élise. Voilà, c'est comme ça, on est punis. Toi Alexandre, tu vas nous présenter 5 BD en prenant 2 minutes par BD.
C'est ça. Exactement. Bah, comme c'est la fin du mois, et j'ai dit le mois dernier qu'à chaque dernière émission du mois, je ferai une petite review de ma pile à lire de 5 titres que j'ai vraiment adoré et que j'ai pas eu le temps de chroniquer ce mois-ci. Bah, c'est exactement ce que je vais faire aujourd'hui.
Trop bien. Alors c'est parti, on t'écoute.
Alors commençons par une découverte que j'ai fait au hasard d'un rayon dans une bouquinerie sur l'étagère dédiée au manga. Un titre qui est sorti du lot parce qu'il m'a attiré avec sa couverture jaune fluo et argentée. Le lettrage du titre sur la couverture, Search and Destroy, et le design global sont très inspirés de l'esthétique soviétique des affiches de propagande communiste, et le dessin m'a intrigué. Ce trait assez particulier m'a parlé, j'avais déjà vu cet artiste quelque part. Et oui, ça m'est revenu, il s'agit d'Atsushi Kaneko, l'auteur de la série Evol, qui était dans la sélection cette année à Angoulême. Alors je découvre toujours sur la couverture qu'il s'agit d'une réécriture de l'œuvre de Dororo d'Osamu Tezuka, le papa du manga, et qu'en plus la série sera conclue en 3 tomes, donc ni une ni deux, je repars avec le tome 1, et comme prévu, bah, c'était une dinguerie. Alors nous sommes à Asahi Ashizuka, dans un monde cyberpunk post-apo vraiment crade, peuplé de robots et d'humains augmentés, et nous découvrons Doro, un petit orphelin pickpocket et plutôt courageux qui est pris en flagrant délit alors qu'il était en train de tenter de cambrioler des genres de yakuza robots vraiment dégoûtants. Mais une créature à l'odeur pestilentielle, ni homme ni robot, ou peut-être un peu des deux, va faire éruption et faire le ménage. Il s'agit en fait d'une jeune femme cachée sous une peau de bête en décomposition qui va attaquer le gang grâce aux lames cachées dans ses prothèses robotiques d'avant-bras pour récupérer ce qui lui appartient. Vous vous demandez qui elle est et ce qu'elle cherche, et bien foncez lire cette pépite. L'histoire va finir par rassembler Doro et cette jeune femme, et tout va devenir de plus en plus clair pour nous, les lecteurs, grâce à une série de flashbacks et de dialogues bien trouvé entre les deux personnages. Le dessin est juste fou, le style est très marqué, très chargé et en même temps très maîtrisé. L'univers semble vaste, crédible, c'est dense, ambitieux, il y a plein de bonnes idées de science-fiction. Bref, j'ai adoré, c'est une petite série parfaite qui me tarde de finir. Je la conseille à tous les fans de science-fiction, de récits post-apo, de récits sur les robots tout simplement. Search and Destroy est sorti le 3 février 2021 aux éditions Delcourt Tonkam et chaque tome coûte 9,99€. Et comme je le disais, tout est terminé en 3 tomes.
Magnifique.
Ensuite, on change complètement de registre avec un comics qui va avoir 25 ans l'année prochaine, qu'on peut ranger dans la catégorie des classiques à avoir lu si on aime les super-héros et qui a marqué toute une époque, celle du début des années 2000, en créant avec lui l'univers Ultimate chez Marvel. Je veux parler de Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis et Mark Bagley au dessin. Alors, je profite de la nouvelle réédition de cette série en format poche, un format plus économique et plus petit et souple, qui m'a permis d'enfin me plonger entièrement dans cet arc si particulier de Spider-Man. Qui a profité du changement de millénaire pour relancer sa numérotation au numéro 1. Parce que c'est exactement de ça qu'est question dans Ultimate Spider-Man, c'est de reprendre à zéro l'histoire de Peter Parker, un ado de 15 ans qui va se faire piquer par une araignée génétiquement modifiée et devenir un super-héros Spider-Man. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, hein, vous la connaissez sûrement, mais tous les ingrédients... Exactement, tous les ingrédients sont dedans. On a l'oncle Ben, Tante May, Osborn, le Caïd, le Bouffon Vert, Docteur Octopus, les grands pouvoirs, les grandes responsabilités, etc., etc. C'est tout pareil que d'habitude, mais dans un style bien plus moderne et accessible que les comics des années 60, et ça marche plutôt bien. Ce petit lifting, il va permettre de donner un point d'entrée vraiment sympa à des nouveaux lecteurs, même les plus jeunes, qui voudraient lire du super-héros et lire les origines de comment Spider-Man devient Spider-Man. Alors en parlant de lifting, c'est aussi un peu un point négatif pour moi. Le dessin nous replonge aussi dans cette drôle d'époque un peu particulière des années 2000. On va dire que c'est pas ce qui a le mieux vieilli. Les personnages, ils peuvent avoir des têtes différentes entre chaque case, c'est un peu compliqué, mais on s'y fait, l'histoire prend le dessus et de toute manière elle prime un peu sur le dessin. Encore une fois, c'est personnel, cet avis-là sur le dessin, peut-être que vous, ça vous plaira. Ça nous donne donc un comics super accessible, même pour les plus jeunes, et encore plus dans cette nouvelle édition format poche pour 9,99€ pour un peu plus de 330 pages, ce qui est un bon rapport prix-page. Le run complet d'Ultimate Spider-Man dans ce format-là est prévu en 11 tomes. Les deux premiers sont déjà sortis et je vous recommande chaudement si vous voulez vous lancer dans un long run super-héroïque ou si vous voulez faire lire du Spider-Man aux jeunes qui vous entourent. Cette nouvelle édition est disponible depuis le 3 avril dernier chez Panini Comics.
Super.
Ensuite, on passe encore une nouvelle lecture que j'attendais, celle-ci avec impatience, de la science-fiction, toujours mon genre préféré, chez un de mes éditeurs favoris, 404 Graphics. Peu de chance donc d'être déçu, et c'est encore une belle découverte qu'il nous propose avec Arca ou La Nouvelle Éden, une dystopie brillamment conçue par l'auteur Van Jensen et le dessinateur Jesse Lonergan, j'espère que je prononce bien, une dystopie qui nous semble pas si éloigné que ça, où la société humaine se serait effondrée, mais où un groupe de milliardaires un peu prévoyants aurait construit une arche, Arca, un vaisseau spatial destiné à les sauver et à les amener sur Eden, une planète habitable semblable à la Terre. Dans ce vaisseau, tout est prévu pour subvenir aux besoins de ses passagers, et une hiérarchie est mise en place pour que l'organisation soit optimale dans le navire. Les adolescents sont réduits à une sorte d'esclavage consenti, entre grosses guillemets, jusqu'à leur majorité, avec une promesse, une vie nouvelle et meilleure dans le nouveau monde à leur arrivée. Mais au cœur de Arca, la jeune Perséphone va faire une des découvertes qui remettent en question sa vision de la hiérarchie, de sa place dans le vaisseau et de l'avenir que leur promettent leurs dirigeants qui semblent prêts à tout pour préserver leurs privilèges. Alors si je devais trouver trois œuvres à mettre dans le même panier que Arca, pour vous donner envie de découvrir ce récit, je
parlerai de Bablé, non ?
Exactement, je parlerai de Shangri-La de Mathieu Bablé, je parlerai aussi du roman Silo de Hugh Howey et du film Le Soleil Vert de Richard Fleischer.
Très bien.
Alors ceux qui ont les refs, hein, comme toi, tu as apparemment, vous comprendrez là où je veux en venir. Les autres, bah, qu'est-ce qui vous attend ? Qu'est-ce que vous attendez ? Foncez lire ou voir cette masterclass.
Là, c'est clair.
L'enquête de Perséphone va révéler plein de leviers importants pour l'histoire. On tourne les pages à une vitesse folle pour en savoir plus. Et en plus d'être haletant, comme tout bon récit de science-fiction, il soulève des questions importantes sur la culture, l'éducation, l'importance des livres, de l'histoire et des histoires. Bref, c'est presque trop court. On glisse sur le découpage du dessinateur. C'est super agréable à lire. Le dessin fonctionne hyper bien. Le rythme est très bon. Le scénario est solide. Et comme d'habitude, la fabrication du bouquin est top. Un must-have si vous aimez les récits de science-fiction intelligents sans être complexes. Ça pourrait être une très bonne première lecture de ce genre pour un jeune lecteur. C'est un one-shot sorti le 7 mars dernier chez 404 Graphics au prix de 22€. Passons à encore de l'ASF, mais dans un contexte différent, le futur moyenâgeux. Alors là, oui, encore du post-apocalyptique. Suite à l'effondrement annoncé au XXIe siècle, la société s'est reconstruite dans un modèle néo-féodal. Et je vous parle de Néo-Forest, de Fred Duval et Philippe Scofoni. Dans ce monde, la nature a largement repris ses droits. Elle est omniprésente dans les pages de cette BD très verte. On y découvre même des espèces de plantes recréées et modifiées par les humains, comme les orchidées empoisonneuses. Mais la technologie est aussi très présente, malgré l'effondrement. Il y a des bagues connectées, des puces de localisation, des élevages de pièces détachées humaines. Bref, c'est le futur. Et au milieu de tout ça, dans son royaume, le comte Cocteau, qui a subi une grave blessure lors de joutes à vélo, potentiellement mortelle s'il ne la soigne pas, essaye de contacter par tous les moyens sa fille Blanche, l'héritière du trône, pour lui faire une passation de pouvoir temporaire, le temps de se soigner. Malheureusement, la jeune femme de 17 ans est partie à l'aventure, c'est une ado, elle est partie à l'aventure dans la grande forêt centrale, qui est super dangereuse. Le comte va charger un certain Paul Grimm, un ancien garde forestier et opposant politique au comte, plutôt farouche, qui a retrouvé sa fille au plus vite, sentant qu'un complot visant à éliminer le comte est en train de se tramer contre lui. Alors, difficile de vous en dire plus sans trop en dévoiler, je me suis complètement fait cueillir par cette histoire qui mêle complot, aventure, suspense et enquête. Alors forcément, comme je le disais plus tôt, c'est de la science-fiction qui permet de soulever des questions. Ici, l'urgence écologique, la génétique, les luttes de pouvoir et bien d'autres sujets. Alors même si l'histoire prend son temps pour poser le décor, les enjeux s'accélèrent assez vite et on reste suspendu à la dernière page avec l'envie de voir vite la suite. Le dessin est assez magistral, plutôt réaliste, plein de détails. Il accompagne une palette de couleurs oscillant entre le vert et le marron, c'est vraiment très beau. Et
les couleurs sont magnifiques.
Exactement.
Je suis en train de le feuilleter là, c'est...
Et il me semble que l'histoire sera donc conclue en 2 tomes, donc le prochain. Cool. Néo-Forest de Fred Duval et Philippe Scofoni est sorti le 20 janvier 2023 aux éditions d'Argo, 64 pages au prix de 16,50€. Vivement la suite. Et enfin, je finis par un titre qui sort demain, si vous nous écoutez en direct, ou vendredi 26 avril, si vous nous écoutez sur un autre plan interdimensionnel. Alors, décidément, c'est presque un fil rouge de toutes les chroniques que j'ai faites aujourd'hui, mais je vais encore vous parler de la fin du monde. Et même plus précisément...
C'est pour ça, Bilal, ce dessin un peu...
Ah oui, bah c'est Eric Powell, justement, okay. J'y reviendrai après.
Très bien.
Oui, donc du coup, la fin du monde, et plus précisément, il était une fois pendant la fin du monde, Once Upon a Time at the End of the World, c'est le titre de ce comics de Jason Aaron et Alexandre Tefengi, un tome 1 proposé par les éditions Urban Comics, un titre que je n'avais pas du tout vu venir et qui m'a bien secoué. Alors que cela fait des jours que la jeune Maisie traverse des continents de plastique dans un monde désolé sans jamais croiser une âme qui vive à part des genres de poulpes à pinces monstrueux qui cherchent à la tuer, elle va s'enfoncer dans une jungle urbaine hostile pour essayer de trouver de quoi se nourrir. Et c'est à ce moment qu'elle va faire la rencontre qui va tout changer. Dans un immeuble ultra protégé par des pièges dignes d'un maman j'ai raté l'avion, elle va tomber nez à nez avec le jeune Maceo, et ils n'ont rien en commun. Lui, n'ayant jamais quitté sa tour, le jeune Maceo, il vit grâce aux montagnes de distributeurs en tout genre abandonnés dans tous les étages du building. Ses parents lui ont toujours dit de ne pas sortir de la tour car de grands dangers pourraient le tuer à l'extérieur. Il y a des méchants aussi, donc il ne faut pas y aller. Et jusque-là, il n'avait jamais eu de raison de s'y aventurer. Mais cette rencontre avec la jeune Maisie va tout changer. Et même si elle a l'air de fuir quelque chose, il veut l'accompagner. Sauf que Maisie capte tout de suite que c'est un méga boulet dans son monde plein de pièges qui peuvent être mortels. Mais vaut-il mieux parcourir une planète ravagée seule ou accompagnée ? C'est la question. Le pitch plutôt basique va vite devenir très intéressant quand on va découvrir petit à petit le passé de Maisie, ce qu'elle est en train de fuir, mais aussi le futur de Maceo, parce que spoiler alert, même s'il n'est pas du tout dégourdi, on va l'apercevoir dans le futur en mode vieillard, plein de cicatrices, et inutile de vous dire qu'on veut savoir ce qui s'est passé entre-temps. Ce petit principe narratif qui jongle entre le passé, le présent et le futur est super bien amené. On a envie de savoir comment les personnages vont évoluer et comment ils en arrivent à leur version du futur. Alors ne vous fiez pas à la couverture pour le dessin à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Alexandre Tefengi, dessinateur français originaire de Montpellier, fait un job incroyable, proche de ce qui se fait en animation, son trait est dynamique, sans être fouillis, et son découpage est très vif. C'est un titre qu'on dévore, je le conseille aux ados à partir de 15 ans, et pour les grands ados aussi, ça a vraiment bien marché sur moi. Ça sort demain donc en librairie le 26 avril aux éditions Urban Comics pour un prix de 19 euros.
Magnifique, merci beaucoup Alexandre pour ces chroniques qui donnent très envie de lire.
Et
je feuillette les ouvrages pendant qu'il en parle et tout est magnifique, ça donne très envie. Bravo pour ça. Qu'est-ce qu'on écoute du coup pour illustrer
cette
quintuple chronique?
Exactement, qui est un peu sur la thématique du coup de la fin du monde. Comme Élise n'est pas là, je me suis dit tiens, je vais passer un morceau d'un film.
Bien joué.
Alors elle me l'aurait accepté parce que du coup c'est Loaded de Primal Scream. Et c'est un morceau qui est dans la BO du dernier pub avant la fin du monde.
Très bien, j'adore ce groupe. On écoute du coup Primal Scream avec Loaded.
Just what is it that you want to do?
Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do.
Away, baby, let's go.
We're going to have a good time. We're going to have a party.
Just what is it that you want to do?
I'm gonna get deep down, I said. I'm gonna get deep down, woo, hey!
We want to be free to do what we want to do.
C'était Primal Scream avec le titre Loaded, le choix musical d'Alexandre pour illustrer sa pentachronique de fin de mois. De très belles BD en perspective. Moi, je vais aussi vous parler de BD dans cette émission, mais je vais aussi vous parler de métal. Et oui, d'abord, remercions les éditions Petit à Petit qui publient en novembre 2023 le docu-BD Métal. C'est écrit par Fabrice Rinaudi et dessiné par 15 dessinateurs. L'ouvrage compte environ 200 pages, 192 pour être exact, et le format est de 19 par 26, assez original. J'ai bien aimé la prise en main de cet ouvrage. Je suis pas hyper habitué, mais j'ai trouvé que c'était cool. Déjà, il est magnifique et tout est très soigné, à commencer par le préambule qui expliquera la démarche, présenter tous les styles de métal, les genres et leurs spécificités. Le préambule prend bien soin d'expliquer que bien souvent les groupes transcendent ces limites et bien souvent empruntent à plusieurs de ces genres et que la classification stricte des groupes selon les étiquettes serait bel et bien absurde et déclenchera sûrement des émeutes dans les bars à bière, mais permettra cependant aux néophytes de bien identifier les différences entre black metal, sludge, stoner, doom, heavy et autres grindcore. Car oui, le métal a plutôt mauvaise presse et très souvent méprisé par rapport à ce qu'il regorge de qualité musicale, de virtuosité, d'originalité et de créativité. Ça a été pour moi une excellente porte d'entrée dans ce gloubi-boulga de genre et d'influence, et ça a été un vrai plaisir de me laisser guider par l'auteur. Sur la forme, la BD propose pour chaque genre une mini-BD du plus bel effet, illustrant soit des paroles de chansons, soit des légendes urbaines, ou soit des moments de vie illustrant le genre en question. Le tout est suivi de deux pages de texte avec des photos et des albums marquants et des explications sur les spécificités du genre, les groupes à connaître, les albums à écouter, il y a tout ce qu'il faut, quoi. C'est un super cadeau à faire et une super BD si vous voulez vous intéresser un peu plus à ce genre, ou si vous voulez que quelqu'un de votre entourage découvre un peu l'étendue du style. J'en profite pour remercier très fort mon petit pote de Théo de Métalleux de France qui m'a offert cette BD. Ça a été un vrai plaisir de découvrir un peu plus en profondeur cette culture au fil de ce superbe ouvrage. J'en profite pour faire un petit clin d'œil aux monstres du genre qui sont d'ici, à savoir Gojira, qui joue demain à Biarritz. Donc, ce sera mon choix musical pour cette émission. C'est comme ça qu'on va se quitter, d'ailleurs. Et je vous propose le titre Global Warming de Gojira. Et on vous dit à la semaine prochaine avec Élise.
Ouais.
Et merci d'avoir écouté Web Radio. À bientôt.
Ciao.
We'll see.